Bonjour, ici le pasteur Thibaut de la Ruelle, de l'église protestante de La Réunion, qui est basée au 123 Allée des Saphirs à Saint-Denis, qui vous accueille aujourd'hui pour cette émission Parole. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philly. On avance d'une semaine notre traditionnelle émission, mais enfin bon, c'est...
C'est fait quand même mensuellement.
Voilà, tout à fait, on fait quand même.
Bonjour à tous.
Toujours une par mois. Donc on continue un petit peu notre traversée à travers les Écritures. On était parti de la Genèse. Je me souviens plus, on était parti avec Abraham ou avec Caïn et Abel.
On a tout fait. Aujourd'hui, on suit les pérégrinations du peuple hébreu en sortie d'Égypte et vers la terre promise, le pays, la terre de Canaan.
Voilà, tout à fait. Donc effectivement, pour rappeler un petit peu aux auditeurs qui auraient pas forcément suivi les épisodes précédents, donc on a vu la naissance du peuple à travers, au fond, les 12 fils de Jacob. Jacob qui change de nom, qui prend le nom d'Israël. Ces 12 fils se retrouvent en Égypte pour des questions un peu conjoncturelles. Hein. Joseph vendu par ses frères, se débrouille bien, il devient premier ministre du Pharaon. Ses frères le retrouvent parce qu'il y a une famine. Enfin, il y a toute une sorte de film là qui est assez d'ailleurs assez mouvementé, et puis il s'installe en Égypte parce qu'après tout c'est toujours plus intéressant d'être dans un pays important à des postes puissants. Et puis les 12 fils ont des descendants et ça donne du coup 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et voilà, et donc là on arrive dans le livre d'Exode qui nous dit que cette population des fils d'Israël, forcément, en pays égyptien, elle finit par poser question. On se dit, oulala, eux, ils sont un peu... c'est des étrangers, quoi. Hein, donc, on a un phénomène de xénophobie, j'allais dire, malheureusement très classique. Et donc, les Égyptiens, à la fois, ne supportent pas ces étrangers. Mais comme souvent, plutôt que de les jeter dehors, entre guillemets, ou de dire, bon, OK, vous pouvez partir, ils veulent exploiter leur force de travail. Donc, ils les transforme en esclaves. Et donc on a ce peuple comme ça en esclave en Égypte jusqu'à ce que effectivement Moïse, envoyé par Dieu, libère le peuple, donc le fasse sortir d'Égypte. C'est donc là évidemment le grand épisode biblique de Pâques. Donc ça il faut le dire et le redire. On le dit pas assez, enfin on le dit pas assez, ou en tout cas si on le dit on en tire peut-être pas toujours assez les conséquences, mais la foi biblique c'est vraiment Pâques.
Oui, avec vraiment... la nuance que là, c'est la Pâque.
Alors, non pas... Bien sûr, nous chrétiens, la Pâque. Mais en même temps, justement, nous chrétiens, notre Pâque, à la limite, j'allais dire presque, elle n'a pas de sens sans cette Pâque-là. C'est-à-dire que la Pâque chrétienne vient au fond reprendre cette Pâque-là, cette conviction du Dieu qui libère, et lui donner un sens nouveau, c'est-à-dire un sens universel, puisque effectivement ça concerne plus simplement un seul peuple, mais ça concerne tout un chacun qui finalement reconnaît la seigneurie du Christ. Donc on voit, mais tu vois, avant d'en arriver à l'universalisme de la Pâque chrétienne, quelque part, il faut quand même comprendre aussi les fondements de la Pâque de l'Ancien Testament, quoi, parce qu'elle est complètement centrale, quoi. Et il faut donc rappeler que c'est vraiment ça le fondement de la foi biblique, et que c'est à partir de ça, après, que les personnages bibliques, les auteurs bibliques, ils vont travailler, ils vont réfléchir d'autres thématiques, d'autres grandes questions, et notamment évidemment celle de la création, hein, d'où vient l'homme, le monde, machin, mais c'est pas premier. C'est-à-dire que, je le disais récemment lors d'une étude biblique, le commencement de la foi biblique, c'est pas la création, c'est vraiment le salut, c'est vraiment le Dieu qui me rend compte, qui fait quelque chose pour moi, qui fait que ma vie change, et à partir de ça, je comprends le monde et tout ce qui l'habite, quoi.
D'accord.
Donc c'est vraiment central. Puis après, donc, le peuple se retrouve dans le désert. Dans le désert, il erre 40 ans, hein, puisqu'on avait vu ensemble que la liberté, finalement, on la veut bien, mais l'assumer, c'est un autre problème. Donc le peuple...
Il faut la mériter également.
Il faut être fidèle. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il suffit pas de pleurnicher après elle, mais effectivement, une fois qu'on l'a, il faut encore être fidèle à cette liberté. Et donc, ce que le peuple ne fait pas... Donc on voit que très rapidement, il y a tous les épisodes, les grands grands épisodes de l'idolâtrie avec le, bien sûr, le veau d'or, et puis après Massa et Meriba, enfin voilà, un certain nombre d'épisodes où le peuple dit que même il va jusqu'à dire qu'il préférait l'Égypte, donc suprême dénégation. Et puis bon, au bout de 40 ans, la génération sortie d'Égypte meurt dans le désert, et la génération issue de cette génération, donc les enfants, donc la génération née dans le désert, entre en terre promise sous la houlette d'abord de Josué. Donc Josué, c'est le remplaçant de Moïse. Il est lui-même, en fait, lui-même est sorti d'Égypte, hein, donc il n'est pas né dans le désert, mais quand même, voilà, il fait partie des rares qui vont connaître les deux. Et donc il rentre sous la houlette de Josué. Donc on a eu le livre de Josué, on en a parlé. Notamment à la prise de Jéricho. Et puis là, on arrive cette fois-ci dans le livre des juges, qui finalement correspond à l'étape suivante, c'est-à-dire que Josué meurt. Et donc les
tribus s'installent en terre cananéenne.
Voilà.
Donc nous sommes aujourd'hui dans le livre des juges, nous abordons ce nouveau chapitre biblique. Ma première question, pourquoi le mot « juge » figure-t-il en titre de ce livre ? Un juge, pour moi, homme de la rue, c'est celui qui officie au tribunal, rend la justice, c'est son rôle. Pourquoi juge ici ? Y avait-il une justice à rendre dans le sens du terme actuel ?
Alors, c'est une bonne question. C'est la question au fond de l'instance même ou de l'organisation politique. Finalement, le peuple, hein, quand ça commence avec Abraham, c'est une famille. On imagine que c'est Abraham qui commande, et puis que les autres, éventuellement Sarah, si elle est pas contente, elle va utiliser les moyens habituels du couple pour essayer de se faire entendre. Mais globalement, le pouvoir, c'est le patriarche. Voilà. Bon. Mais effectivement, dès lors qu'il y a tout un peuple, la question de comment on fait marcher ce peuple, comment on va le tenir, comment on décide ensemble, comment on s'organise, ça c'est la question qui apparaît. Alors Moïse, dès lors qu'il est envoyé par Dieu, j'allais dire, son autorité elle fait pas tellement problème, quoi.
Elle n'est pas contestée.
Voilà, il faut quelqu'un, il y a un libérateur, c'est un peu le Robin des Bois de service, hein, si on le dit un peu de manière amusante. Donc effectivement, les gens, ils le suivent, ça les empêche pas de le critiquer vertement. De toute façon, hein, l'homme reste l'homme. Dès que quelqu'un prend des décisions, il en prend pour pas un rond systématiquement, même si ça profite au groupe. Donc c'est le cas avec Moïse. Puis Josué, on va dire, il est un peu dans la même ligne, hein, donc c'est pas encore trop critiqué. Mais effectivement, avec les juges, d'ailleurs le livre commence là-dessus, c'est-à-dire que la génération du peuple dans les juges, ils commencent à plus du tout connaître. C'est-à-dire que cette génération qui est sortie du désert, qui s'est installée avec Josué, elle meurt, quoi. Le temps passe, elle meurt, et donc c'est les descendants qui arrivent. Et dans les juges, on nous dit qu'effectivement, ils connaissent plus, quoi. Ils savent pas d'où ils viennent, quoi. Donc ils sont dans le pays, ils s'installent. Bien sûr, ça c'est pas comme quand on fait un déménagement, hein. Ça prend des années, ça bouge, machin. Bon, voilà, il y a toute une
Des conflits peuvent naître donc entre ces enfants de cette génération, d'où l'utilité d'un juge.
Alors du coup, le juge, c'est pas lui qui va régler tous les problèmes. J'imagine que c'est les lévites qui s'en chargent. Voir exactement, hein, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ces textes, il n'y a pas forcément d'éléments, mais le juge, en tout cas, c'est celui, et c'est ça qui est important, c'est celui qui va diriger le peuple avec la loi. Mais la loi, évidemment, la loi qui a été donnée dans le désert, c'est-à-dire finalement les 10 commandements, et puis toute la série après qui est consignée dans le Lévitique, dans le Deutéronome, donc toutes ces prescriptions-là. Mais en même temps, évidemment, là, il y a une charge politique derrière, c'est-à-dire que c'est pas simplement le juge, c'est pas un truc, enfin c'est pas religieux pointu, c'est pas le prêtre qui va savoir les prescriptions, tout ça, mais c'est celui qui va dire au peuple, au fond, qu'est-ce que Dieu veut. Dans la ligne un petit peu, dans la même ligne que Moïse, c'est-à-dire de dire, parce que la loi, en fait, c'est quoi la loi ? La loi, c'est le sceau de l'alliance. Ça veut dire que finalement, la seule garantie que le peuple a d'être dans l'alliance, c'est de respecter la loi. Donc, évidemment, il est clair que le chef politique qui veut être un chef politique dans l'Alliance et pas simplement voilà, à gouverner une peuplade, mais qui veut gouverner une peuplade dans la ligne de fidélité à Dieu, bon, bah, forcément, lui, il va chercher une conformité avec la loi. D'où le terme de juge.
Est-ce à dire que seul le juge a connaissance de la loi, c'est...
Non.
Et ça lui permet d'asseoir son autorité et de mener le peuple...
Non, c'est à dire que, effectivement, il y a, c'est évident que le juge, encore une fois, il ne peut pas juger tout le monde. Il y a quand même pas mal de gens. Donc, il y a certainement une organisation comme ça élémentaire avec des juges niveau pour gérer les affaires communes, machin. Donc, la loi, elle doit plus ou moins être connue en partie tout ça. Le juge dont il est question dans le livre des juges, c'est celui qui dirige le peuple de façon à le garder dans la ligne de la libération. Et tu vois, on voit très bien dans ce texte que constamment, en fait, on va avoir des juges, puis on va nous dire, il y a eu 40 ans de stabilité. Donc ça nous donne cette espèce de temporalité du désert pour dire, au fond, pendant ces 40 ans, le peuple, il est conduit à travers le désert. Il n'est pas perdu, mais il est conduit. Donc en fait, c'est ça. Le juge, c'est la figure qui permet au peuple de se maintenir dans l'Alliance.
Tu vois ? C'est un juge guerrier également, qui mène le peuple à la guerre, qui mène ses troupes.
Alors, effectivement, dans le livre des juges, on voit que sa bataille dure, parce que, bah, effectivement, ils sont installés dans un territoire qui est occupé, hein. Il y a d'autres peuples présents. En fonction des périodes, ça castagne un peu, hein. Ça, c'est, je veux dire, voilà, hein, si un peuple, tout d'un coup, ils sont en paix, mais peut-être que, voilà, deux générations plus tard, ça va plus, tout ça. Bon. Donc ça, il y a constamment des guerres, mais on voit bien là-dedans que c'est pas uniquement des guerres. Bon, on nous attaque, on se défend, ou on attaque, ils se défendent, mais c'est aussi à chaque fois, il y a une connotation, justement une coloration théologique, c'est-à-dire, il en va de la survie de l'Alliance. C'est-à-dire que du coup, à chaque fois, en fait, les peuples alentours, ils sont censés être menaçants parce que, bah, ils ont avec eux leur dieu, leur idolâtrie, leur culte païen, et donc quelque part, justement, c'est pour ça qu'encore une fois qu'on revient à cette notion de juge. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, un président de la République, un chef, un roi, ce qu'on veut, enfin, uniquement un type qui dit, je garantis, notre territoire, nos frontières, tout ça, mais c'est d'abord quelqu'un qui veut garantir une certaine pureté théologique, une certaine fidélité à l'Alliance. Donc, on va les castagner tout ce qui menace, parce que le peuple, on voit bien dans ses livres, il va constamment évidemment être séduit par les dieux étrangers, et donc, et c'est interprété comme étant la pire chose.
N'aurait-il pas été plus simple pour Dieu de les envoyer dans une terre où il n'y avait personne, où ils auraient pu se regrouper tout seuls, et puis chacun chez soi, au lieu d'empiéter sur le territoire des autres, au lieu d'aller guerroyer à gauche et à droite, au lieu de se faire envahir, surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était des guerres violentes. Où est l'utilité de cette violence dans la mesure où elle aurait peut-être pu être évitée?
On peut pas refaire l'histoire, hein, c'est sûr, mais
quel est le but dans ce positionnement?
Mais non, mais en fait, la question, c'est que à la limite de la terre, il y en a assez pour tout le monde. Je veux dire, on va pas se lancer dans une approche démographique et géographique des choses pour regarder nous aujourd'hui en disant si c'était mis là, on le voit très bien aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, concrètement, il y a assez de place, c'est pas le problème. C'est toujours un problème de revendication, et derrière avec la question de l'identité, quoi. Qui est-ce qu'on est, qui est les autres, et là dans les juges, encore une fois, les autres en tant que tels, en fait, c'est ce qu'on leur reproche surtout dans ces livres-là, c'est le fait qu'ils aient des dieux qui produisent la débauche théologique du peuple d'Israël. C'est-à-dire que les au sein du peuple d'Israël, les gens, voilà, ils vont voir les cultes païens et ils vont se vautrer dedans, quoi. Donc c'est beaucoup ça, en fait, le problème. Alors après, encore une fois, les autres, c'est pas des anges non plus, hein. Je veux dire, on est, façon, je veux dire, là, on parle de cette région du monde, mais constamment, dans d'autres régions du monde, ça tabasse pour prendre, enfin, je veux dire, depuis qu'il y a de l'humain sur Terre, dès qu'il y a une tribu, elle voit les autres en face, bon, elles font du commerce avec, puis après, elles font la guerre, quoi, hein. C'est toujours un peu la haine et l'amour qui se mêlent, quoi.
Alors, on a vu, donc, ce certain peuple hébreu, donc, dériver et aller donc vers d'autres idoles et se déterminer des dieux. Conséquence, des malheurs s'abattaient sur eux. Mmh. C'est donc la sanction. Mmh. Et mais après, quand le malheur était trop lourd à supporter, ces populations donc se retournaient vers Dieu, demandaient pardon, mmh. et puis donc bénéficiaient après de tout ce que Dieu pouvait leur apporter, la délivrance et tout. Mmh. Est-ce que c'est l'application de l'expression qui aime bien châtie bien? Mmh. Dieu aime son peuple. Mais pour ce peuple-là, est-ce qu'il fallait qu'il soit châtié, hein, pour qu'il prenne conscience de l'amour de Dieu, quoi?
Alors, j'irai pas les choses comme ça, évidemment. Enfin, comment, je veux dire, c'est moi, je crois que c'est une relecture. Les textes bibliques, c'est toujours des relectures de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, il n'y a pas toujours que de la relecture. Hein. Il y a aussi des paroles contemporaines. Je pense, par exemple, aux prophètes. Il y a des tas de prophètes qui avertissent en disant ça va pas, il faut se reprendre, machin. Bon, mais les récits bibliques, ils sont de toute façon, dès lors qu'ils sont mis dans la Bible, ils sont travaillés par un exercice de relecture. Et on sait très bien que l'exil à Babylone a permis aussi de construire la Bible, justement, autour d'une relecture de ce que signifiait Pâques. Puisque finalement, tu vois, on peut faire un parallèle entre l'exil à Babylone et la libération d'Égypte. C'est-à-dire que on va aller chercher le sens d'une situation présente dans, j'allais dire, la grille de lecture qui est Pâques, c'est-à-dire l'Alliance, ce que Dieu a fait pour le peuple. Et à partir de là, on réfléchit, on se dit, voilà, bon, en quoi cet événement nous marque, en quoi on l'a trahi, des choses comme ça. Bon. Or, qu'est-ce qui se passe avec les juges? On voit bien qu'il y a un processus d'écriture qui est très codifié, puisqu'à chaque fois, comme tu dis, hein, je veux dire, ça va pas, ils sont, alors des fois même ils se font carrément déporter, tout ça, donc on se dit, c'est le retour en Égypte presque, hein, le peuple prend une raclée par un peuple étranger, il se fait mettre en esclavage, enfin en tout cas à chaque fois c'est très dur, et puis finalement Dieu va susciter un juge qui les libère, le juge permet cette libération-là, et puis on nous dit il y a 40 ans de paix, et puis patatrac, ça retombe aussi sec. Bon, ben, je veux dire, justement, on a une relecture des événements, c'est-à-dire que c'est des livres pédagogiques qui viennent dire, regardez, à chaque fois que nous, Israël, on se vautre dans l'idolâtrie, parce que nous, évidemment, les chrétiens, le problème, c'est que nous, idolâtrie, c'est péjoratif, c'est-à-dire que pour nous, on dit idole, tout le monde va dire, ouais, c'est mal. Bon, sauf que les idoles des autres, on les voit, nos idoles à nous, c'est nettement moins net. Nous, les chrétiens, on crache après les idoles. Si on dit demain, bon, il faut arrêter le CAC 40 et tous les triple A, tous les machins, ça grince un peu plus des dents. Donc, c'est facile de dénoncer les idoles des pères et des grands-pères. Nos propres idoles à nous, c'est toujours plus compliqué. Bon, donc, voilà, on voit bien que la critique de l'idole, c'est la critique de la séduction de l'époque. Bon, et du coup, la lecture que fait ces livres, c'est de dire, voyez, où nous a mené cette idolâtrie. Ça a eu des conséquences sociales, politiques, et donc, voilà, si on est aujourd'hui tout en bas, dispersé, éclaté, c'est à cause de ça. Et donc, il y a du coup, en arrière-fond, la conviction que même si Dieu veut faire prendre conscience de cette infidélité-là, donc en laissant le peuple au fond se débattre dans ce qui s'est mis, en même temps il va quand même emmener la libération, il va susciter un juge qui va permettre que les choses s'arrangent. Donc c'est je dirais, il y a la dénonciation de l'infidélité chronique du peuple tout en affirmant la fidélité de Dieu, même si encore une fois, bon, bah la fidélité de Dieu, ça veut pas dire que systématiquement il arrête les dégâts avant
de si,
dans le mur, il les laisse aller dans le mur.
Oui, je veux bien, mais enfin, je mets à la place du peuple, je peux me dire, moi, je fais toutes les bêtises possibles, hein, mais après, ça sera effacé d'un coup, et puis, gloire à Dieu, merci Dieu, mais enfin, j'ai quand même fait mes bêtises, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas empêché le peuple de commettre ses bêtises, alors, dans ces conditions? C'est trop simple, par rapport au peuple, c'est trop simple. Moi, j'ai fait des bêtises, et puis je sais que plus tard...
Non, mais attention, en même temps, l'alliance, elle est maintenue, mais ça veut pas du tout dire que les générations, on leur fait un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'après, ils payent quand même leurs dégâts. Je veux dire, quand ils partent en déportation, je veux dire, t'inquiète pas qu'ils chantent pas en disant, ouais, Dieu, il maintient son alliance. Dieu, il maintient l'alliance, mais peut-être avec la génération d'après. Tu vois, c'est comme en Égypte, c'est-à-dire la génération qui est sortie, qui a été notoirement infidèle, bon, bah, elle n'a pas vu la terre promise. C'est pas toujours une punition, mais c'est, j'allais dire, de toute façon, les conséquences, moi je dirais c'est l'inverse. Et si Dieu les laissait tout faire, puis à chaque fois, tu vois, les sauve dernière minute, Superman arrive, ok, vous n'allez pas avoir de problème, c'est là que ça serait pervers. Mais là, en l'occurrence, c'est de dire, bon, ce peuple, regardez, à la limite, ce peuple, il n'est pas meilleur que les autres. Parce qu'encore en Égypte, ils avaient le bénéfice du doute. Je veux dire, il naît en esclavage, bon, on peut dire, voilà, c'est pas de sa faute, tout ça. Mais là, constamment, je veux dire, ils ont tout. Ils ont tout. Je veux dire, voilà, ils ont le peuple, ça commence, machin. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gaspillent. Tu vois, donc c'est, je dirais, c'est des textes qui finalement révèlent de façon obstinée l'infidélité chronique du peuple et derrière lui de l'homme. Donc c'est même, d'ailleurs, c'est même une sacrée leçon, je dirais, pour tous les, j'ai envie de dire, pour les gouvernements même aujourd'hui, c'est de dire à un moment donné, voyez, les peuples, quels qu'ils soient, c'est pas parce qu'ils acquièrent un progrès que c'est gagné, quoi, parce que voilà, ça retombe très vite dans l'infidélité, la trahison, la mesquinerie, tout ce qu'on veut.
Autre question.
Oui.
Par rapport aux guerres, donc, hein, qui sont succédées dans tout cet épisode. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des guerres saintes ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un peuple, ce sont des peuples qui se sont battus pour leur Dieu ? Ou alors, est-ce que c'est Dieu qui se bat pour son peuple ?
Alors, effectivement, il y a des moments où on est, surtout encore une fois, le lecteur du 21e siècle qui peut être un peu gêné quand il y a un peuple comme ça qui brandit l'étendard de Dieu pour aller massacrer allègrement les autres. Donc, en ce sens-là, ça fait très croisade, ça fait très guerre sainte, machin. En même temps, ce que je trouve intéressant quand même dans ces textes, c'est que de temps en temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le peuple, il va se prendre une bonne tollée, mais c'est parce qu'il a été infidèle. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Gott mit uns, tu vois, sur le ceinturon allemand de la Deuxième Guerre, c'est pas Dieu avec nous, la toute-puissance est de notre côté. C'est quand même, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on soit fidèle à quelque chose, sinon Dieu, il nous cautionnera pas. Tu vois, c'est pas en fond, et c'est bonne question, parce que à l'époque, les cultures, on a des gravures très intéressantes, archéologiques. Quand un peuple, par exemple les Assyriens, font la guerre, ils trimballent leur dieu derrière eux, sur des espèces de comment on peut appeler ça, moi, des brancards, des machins, enfin ces sortes de processions, quoi. Et ils sont convaincus que, comme leur dieu est avec eux, je veux dire, rien va les arrêter. Donc ils vont vaincre et tout ça. Et donc on a vraiment cette figure que le dieu, la présence du dieu contribue à la victoire. Bon, donc il est clair que dans la Bible, on reprend cette symbolique-là, parce qu'encore une fois, les gens d'une époque, dans la Bible, ils appartiennent à leur époque, donc ils vont pas parler de conceptions de Dieu qui sont anachroniques, donc ils reprennent ces schémas-là. Donc, quelque part, pour eux, effectivement, leur Dieu les accompagne, exactement comme les Assyriens et tout un tas d'autres étaient accompagnés de leur Dieu. Donc, il y a cette conviction-là. Mais en même temps, ce que je trouve très intéressant dans la Bible, c'est que le Dieu, il est avec eux dans certains cas, mais il n'est pas du tout avec eux quand ils ont dérapé, quand ils sont dans l'infidélité la plus totale. Donc, ça veut dire que leur Dieu, tu vois, du coup, c'est pas leur marionnette.
D'accord, mais n'empêche que si aucun peuple hébreu n'était sorti vainqueur, il n'y aurait plus de Dieu.
Et alors ?
L'existence de Dieu le concept de Dieu n'aurait pas survécu à ça.
Oui, mais justement, ils n'ont pas été exterminés, quoi.
Si on peut imaginer ça, parce que c'est simple, là, ils n'ont pas été exterminés parce que Dieu est intervenu, donc il n'a pas voulu la défaite de ces peuples. Mais
en même temps, des fois, il est quand même pas loin de plus avoir grand chose, quoi. Enfin, je veux dire, ce que ça dit derrière, tu vois, c'est justement, c'est ça que c'est intéressant. C'est pas Israël qui est invulnérable. Quelque part, c'est l'alliance qui est invulnérable. Donc, à un moment donné, on peut même dire, à la limite, il peut plus en rester un seul. Il y en aura toujours un qui sera suscité quelque part. D'ailleurs, on voit bien, ça aussi, c'est très intéressant. Les juges, tu vois, on prend par exemple Gédéon. Gédéon, voilà, c'est le petit artisan local, qui pèse pour rien dans le peuple. Dieu, il va le chercher, puis il lui dit, voilà, tu libères mon peuple. Donc, tu vois, c'est pas, du coup, qu'on peut pas dire que ce soit des gens de ce peuple. Normalement, un peuple, il est jugé indestructible à travers son aristocratie, son oligarchie, enfin tu vois, ses têtes, quoi. Là, en l'occurrence, dans ces livres-là, voilà, tout d'un coup, Dieu, il va chercher le petit dernier. Donc tu vas, tu vois, il y a aussi une révolution qui s'opère parce que le peuple, pendant ce temps-là, il a toujours ses têtes qui eux sont vautrées dans l'idolâtrie, tu vois. Donc il y a une sorte de révolution interne. Et ça, moi, je pense que c'est ça, justement, l'esprit de Dieu d'alliance à travers les époques. C'est à la limite, bah, je vais le dire de manière assez forte. C'est un peu l'esprit de la réforme aussi. À un moment donné, c'est de dire, voilà, quand il faut, Dieu suscite des prophètes, suscite des penseurs. Suscite des gens qui vont dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se remettre dans le sens de l'alliance, quoi. Il faut se remettre dans la fidélité, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc Israël n'est pas du tout invulnérable et Dieu ne protège pas Israël. Je veux dire, Dieu protège son alliance et donc à un moment donné, il va susciter ce qu'il faut, mais ils vont en prendre autant pour leur grade que les autres, quoi. Hein, je veux dire, personne n'est épargné dans cette histoire.
Tu as cité Gédéon tout à l'heure. Tu peux nous donner d'autres noms de juges qui ont marqué leur temps?
Alors bon, c'est vrai que dans les juges, moi il y en a trois un peu comme ça qui se démarquent. C'est bien sûr donc Gédéon parce que c'est un peu le petit juge comme ça qui est vraiment au début insignifiant. Il y a Déborah, donc ça c'est important. On a une femme, une femme juge. Donc là encore, hein, tu vois, la le côté révolution aussi un petit peu. Hein, je veux dire, c'est une femme à la tête comme ça du peuple. Bon, c'est quand même.
Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire?
Bah, elle était juge, donc je veux dire, du coup, elle a pris cette place
Elle s'est imposée d'elle-même. Elle a...
Bah, dans les récits, on nous dit qu'elle était juge. Voilà. Alors, bon, comme à chaque fois les juges, elle a permis de vaincre un adversaire et d'assurer une certaine stabilité. Alors après, il y a un très grand cantique d'elle. Bon, on va pas dans les minutes qui restent, on va pas l'aborder, mais donc c'est quand même en tout cas un personnage marquant parce que une femme qui a une sacrée poigne aussi, hein, quand on lit l'histoire, c'est intéressant, justement, elle se démarque, pas simplement parce que c'est une femme, mais aussi parce que elle a une certaine présence. Et puis après, Samson, le fameux Samson, avec sa chevelure, là, sa force qui fait que si on lui coupe les cheveux, il est plus capable de rien, et voilà. Donc ça, c'est une histoire pareille, j'invite les auditeurs à la lire et à la relire parce que c'est une histoire très, très, très intéressante.
Pour conclure, je poserai cette question. Alors bon, toutes ces épreuves-là, hein, n'ont-elles pas contribué à forger l'unité du peuple hébreu? Hein, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses amis. Si t'es avec moi, c'est que t'es mon ami. Et puis, à force, on qui se ressemble, s'assemble, quoi. Est-ce que ça n'a pas contribué à l'unité un commencement d'une existence nationale, quoi, si je dirais.
Bah, on va arriver, ce sera la prochaine émission, on va arriver justement sur ça, c'est-à-dire la question de la royauté ensuite. Donc, effectivement, c'est une étape transitoire entre, effectivement, le peuple un peu errant, comme ça, qui sort du désert, qui n'est pas grand-chose, sinon une espèce de fugitif. Un peu plus que ça, bien sûr, mais à un peuple qui va commencer à être très organisé avec une capitale, un roi, donc du coup aussi des frontières beaucoup plus marquées. Effectivement, l'époque des juges est un peu une époque, enfin pas un peu, est une époque de transition entre cette errance,
dispersion
entre cette errance sans pays et la royauté pure et dure qui va être instaurée après. Et bon, on verra comment
d'accord.
C'est mouvementé.
Suite au prochain épisode.
Suite au prochain épisode.
À bientôt Thibault, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Vous pouvez bien sûr réagir à ces émissions au 02 62 41 63 91. 41 63 91. Vous pouvez également retrouver ou podcaster ces émissions sur le site www.egliseprotestante.re.